Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Remontée spectaculaire et effondrement épique dans la NFL. Est-ce que plus personne n'est à l'abri? 8 équipes, toujours sans victoire. Qui brisera le 0-3 cette semaine? Ne manquez pas nos prédictions pour la semaine 4. Nick Foles, Josh Allen, les histoires de car arrière volent encore la vedette. Vous devenez coach de la NFL aujourd'hui et vous bâtissez votre équipe par la course ou par la passe. Alors que la quatrième semaine de la NFL débute, avec nos experts, on regarde quel coach n'a plus le droit de perdre. Bienvenue à la Zone payante, c'est un plaisir de se retrouver encore cette semaine. Jean-Nicolas Gagné avec vous et surtout Jean Carrier, ancien entraîneur et analyste des matchs du Rouge et Or. Salut Jean.
Salut, ça va bien Jean-Nic.
Et Stéphane Cadorette, expert football au Journal de Québec et de Montréal. Salut Stéphane.
Salut messieurs, content de vous retrouver.
Oui, ça va bien de mon côté, de vôtre aussi. On a eu une bonne semaine de football, une bonne fin de semaine. Plusieurs histoires encore qui sont venues ponctuer le téléroman de la NFL, les gars. Pas de blessures comme la semaine passée, mais plusieurs joueurs sont en train d'émerger de la saison 2020.
Mais d'abord, parlons de l'histoire qui se dessine pour cette semaine. La COVID fait son entrée dans les vestiaires de la NFL.
Ouais. Quelle mauvaise nouvelle, en fait. On se doutait là, que la saison allait être à un moment donné, un jour ou l'autre, chamboulée par une nouvelle de ce genre-là. Aussitôt, ben c'est décevant, mais écoutez, c'est les Titans du Tennessee. Là, on parle à l'heure actuelle de 3 joueurs, 5 membres du personnel, puisqu'ils ont joué contre les Vikings dimanche. Les Vikings sont mis en isolement aussi, donc les deux équipes n'ont pas le droit d'aller à leurs installations. C'est fermé jusqu'à samedi au minimum, de ce qu'on en sait jusqu'à maintenant. Chez les Vikings, il n'y aurait pas de cas positifs, mais quand même, ben, je sais pas toi, Jean, ce que t'en penses, mais pour moi, c'est des nouvelles inquiétantes. On veut pas voir ça dans la NFL, c'est sûr et certain. Premièrement, pour la santé des joueurs, ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, pour le plaisir des amateurs, le monde du sport a eu la vie dure. On veut pas voir une autre ligue être obligée de suspendre ses activités. La NFL a été épargnée là, à cause de son calendrier automnal. Tu sais, l'hiver, on n'a pas souffert de ça dans la NFL comme les autres circuits. Mais ça peut vite faire dérailler le train. Donc, hâte de voir comment les équipes vont pouvoir gérer les éclosions. C'est pas évident, mais on sait qu'il y a des tests quotidien dans la NFL, ce qui fait en sorte que il y a quand même des chances qu'on arrive à contrôler, à limiter là, les dégâts dans la mesure du possible.
Exact. La grande question, c'était quand est-ce que la COVID allait faire son entrée? Et ouais, là, elle est faite. Maintenant, c'est comment on va gérer ça du côté de la NFL. Pour l'instant, il n'y a aucune décision là, qui a été prise pour le match entre les Steelers et les Titans du Tennessee pour la semaine prochaine. Écoute, je suis convaincu que la NFL va suivre son plan qu'elle a prévu depuis le retour de la NFL sur la COVID. Donc, ça veut dire que au niveau des joueurs qui sont atteints, il faut qu'ils demeurent asymptomatiques pendant 10 jours ou tout simplement 5 jours et avoir 2 tests négatifs pour pouvoir retrouver là, je pense, leur équipe. On va voir aussi qui sont les joueurs atteints, première des choses, le personnel également, puis les décisions vont être prises en conséquence de ça. C'est très difficile pour nous de spéculer qu'est-ce qui va arriver cette semaine. On va avoir les développements dans les prochaines heures, voire jours. Est-ce que aussi du côté des Vikings, il va y avoir une éclosion? Pour l'instant, tout semble au beau fixe. Ça semble vraiment là, situé vraiment simplement avec Nashville, mais je pense qu'il faut.
Mais le reste que la NFL est confrontée là à l'arrivée de la COVID, c'est plate. Non, on s'en doutait comme un peu sans vouloir se le dire. On se dit ah, yes, on a du football depuis un mois, le retour à la vie normale. Mais là, c'est un peu comme un wake-up call qui nous arrive.
J'ai aimé, moi, ce que Jean disait là-dessus. C'était pas une question de si, c'était une question de quand.
Exact.
Puis, tu sais, c'était parti, là, un peu. Bon, il y avait des petits cas à gauche, à droite, mais on parlait pas d'éclosion. Tu sais, il y a eu un cas chez les Falcons dimanche dernier avant le match. Exact. Il y avait même été question, là, qu'à un moment donné, que les Falcons jouent pas leur match face aux Bears, mais ça a été vite écarté. On a vite contrôlé. Dans le cas des Titans, ce qui est inquiétant, c'est que 5 membres du personnel, 3 joueurs, puis là, ça, c'est au moment où on se parle, lors de notre enregistrement, qui est le mardi matin. C'est pas nécessairement évident là, pour la suite des choses. Reste à espérer que c'est une petite éclosion, que ça va être limité à ça. On souhaite vraiment là, que la NFL, que les Titans vont pouvoir limiter les dégâts.
Mais tu sais, c'était illusoire de penser, Jean-Claude, que quand tu regardes ce qui s'est passé avec la Ligue de baseball, ben le baseball majeur, de passer une saison au complet, quand t'es pas dans une bulle, d'avoir aucun cas de COVID dans ta ligue. C'était vraiment, je pense, c'était tout simplement illusoire de penser ça. Maintenant, faut agir en conséquence. Dans le cas des Titans, il y avait déjà un joueur aussi hein, dans le protocole de COVID. C'est le plaqueur Isaiah Wilson, d'ailleurs, qui était supposé revenir cette semaine en pratique. Donc, on va voir là, tout simplement les développements là, dans les prochaines semaines. Dans le cas du baseball majeur, il faut dire qu'ils ont fait un très bon boulot depuis le début où ça avait été un peu catastrophique.
Ouais, c'était mal parti.
C'était mal parti, mais depuis ce temps-là, il y a un bon contrôle. On va souhaiter que ce soit la même chose là, du côté de la NFL, puis que les protocoles fassent tout simplement leur boulot et qu'on puisse continuer à avoir du football parce que dans cette COVID-19, je sais pas pour vous autres les gars, mais ça fait mauditement du bien de voir du football de la NFL.
Oh que oui. Tu sais, ça va être spécial ce match-là en partant. Là. Les deux équipes peuvent pas s'entraîner cette semaine. Ça va être des meetings virtuels à la semaine longue. Préparation quand même qui est très très affectée, là. Autant du côté des Titans que des Vikings. Puis c'est des équipes qui se retrouvent pas dans des situations faciles. Les Vikings sont à 0-3, doivent se sortir du pétrin face aux Texans qui sont aussi à 0-3. Puis les Titans, eux, vont affronter les Steelers. Là, c'est déjà pas de la tarte. Quand tu dois le faire dans ces circonstances-là, c'est carrément pas l'idéal.
La seule chose que je me questionne là-dessus, Stéphane, peut-être que tu as la réponse, mais est-ce que du côté des équipes qui vont affronter ces équipes-là, on les met dans les mêmes circonstances? Du côté des Steelers, est-ce qu'on va juste leur dire de s'entraîner virtuellement ou ils vont pouvoir toucher le terrain?
Ben, de ce que je vois jusqu'à maintenant, ils semblent pas concernés parce qu'ils ont pas été en contact avec les joueurs et les membres du personnel.
Ouais, non, je comprends cet aspect-là, mais l'aspect que tu vas les affronter, toi, tu vas avoir ta semaine de pratique normale, puis eux, ils vont avoir eu à gérer ça. Donc, tu sais, il y a un niveau
équitable. Il y a un avantage compétitif, là, clair, exact, du côté des Steelers dans ce match-là.
Aucun doute.
OK, ben les gars, reste que la vie continue. Il va y avoir une semaine 4.
On va commencer avec vos histoires de la semaine. Stéphane, quelle est ton histoire cette semaine?
Ben, pour moi, là, la grosse histoire, c'est l'émergence de Josh Allen. Puis là, certains vont dire, il était pas déjà émergé, lui, dans les dernières semaines? Oui, mais tu sais, quand tu avais battu des clubs comme les Dolphins, les Jets, rien contre ces clubs-là, là, soit dit en passant, mais ça reste que faut les voir comme ils sont en ce moment, c'est-à-dire que c'est pas des grands clubs. Ce qu'a fait Josh Allen contre les Rams, moi, là, ça m'a franchement impressionné. De résister à leur assaut en fin de match aussi, il y a beaucoup de corps arrière qui se seraient effondrés à voir leur équipe là, perdre le contrôle comme ça, mais non, il est resté en contrôle. Il a mené une excellente séquence en toute fin de match, là, entre autres un 3-22 converti. Puis c'est surtout de comparer le Josh Allen de 2020 à Josh Allen de 2019. Quand tu regardes le pourcentage de passes complétées actuellement, il est à 71,7%. L'an passé, il a terminé à 58,8. C'est une différence majeure. Ça, c'est incroyable. C'est
gigantesque.
Oh, et c'est inimaginable comme différence. On peut pas savoir à quel point il a dû travailler sur ce point-là de son jeu. Là. C'est énorme comme travail derrière ça. 346 verges par match jusqu'ici. 193 l'an passé. Tu sais, c'est un joueur complètement différent. Puis c'est drôle parce qu'on en parlait, les gars, la semaine passée. Jean-Nic, tu nous demandais, est-ce que Josh Allen va retomber sur terre? Puis je continue de dire que dans une certaine mesure, oui. Il maintiendra probablement pas des statistiques hallucinantes comme ça pendant toute l'année. Mais Josh Allen, est clairement, peu importe les chiffres, là, est en train de s'établir comme un corps arrière de premier plan. Puis je pense qu'on va le voir comme ça dans les prochaines années là, pour un joueur à qui on a manqué beaucoup de respect. Il est en train de s'imposer. Puis si j'ai d'autres jeunes studs, entre guillemets, là, qui sont en train de s'imposer, moi, j'aimerais porter une attention particulière à la classe de receveurs recrues. Il y a beaucoup de bons jeunes receveurs actuellement dans la NFL. On parlait d'une QV là, potentiellement historique pour 2020 après le repêchage. On ne sait pas si ça va être historique. Là, c'est trop tôt pour se prononcer. Mais il y a beaucoup de bons jeunes receveurs qui sont en train de d'éclore. On a vu Justin Jefferson, qui est probablement le seul point positif chez les Vikings actuellement, là, qui a connu un match de 175 verges. Il faut le souligner parce que le reste des choses à souligner au Minnesota, là, c'est vraiment affreux. Un gars comme T. Higgins, qui est, on parle beaucoup de Joe Burrow à Cincinnati avec raison, mais T. Higgins est en train de devenir une cible de choix pour lui, un choix de deuxième ronde au dernier repêchage, deux touchés dimanche. Gabriel Davis à Buffalo, c'est un autre receveur, il a franchi la barre des 100 verges. Écoute, c'est un choix de quatrième ronde, Gabriel Davis. On s'attendait pas forcément à des résultats comme ceux-là aussitôt. CeeDee Lamb qui fait le boulot à Dallas. Jerry Judy, qu'on verra jeudi soir avec les Broncos, qui est le joueur le plus ciblé de l'équipe jusqu'à maintenant, malgré des problèmes de corps arrière. Puis on a vu hier le match Ravens-Chiefs, Devin Duvernay, touché sur un retour de beauté, il nous a montré sa vitesse phénoménale. Donc, je pourrais continuer, on va s'arrêter là, mais beaucoup de bons jeunes receveurs qui vont être à surveiller cette année et dans les années à venir. Là, je pense qu'on est en train, tranquillement, pas vite, de placer les pions de ce côté-là.
OK, merci Steph. Toi, Jean, as-tu une histoire qui émerge de la fin de semaine?
Écoute, faut aller au match Browns-Redskins. Là, tu vas me dire, ouais, mais ça... Quel match plate! Mais c'est vraiment, moi, la côté du match qui, je pense, qui mérite d'être souligné. C'était la première fois dans l'histoire de la NFL qu'il y avait une femme arbitre, Sarah Thomas, et deux assistants coach, femmes évidemment, qui étaient sur les bancs de chacune des équipes, Jennifer King du côté des Redskins et Callie Bronson du côté des Browns de Cleveland. Je pense qu'il y a un effort marqué de la NFL pour, je pense, commencer à inclure les femmes, non seulement au niveau du coaching staff, donc des personnels d'entraîneurs, mais aussi au deuxième étage. On sait qu'il y a une Québécoise qui est avec les Eagles, qui s'appelle ouais. Catherine Reich également. Et je me suis entretenu un petit peu avec Guylaine Demers, qui est une professeure à l'Université Laval, une chercheuse émérite. Beaucoup, là, elle est spécialiste dans le travail entre les femmes, la place des femmes dans le sport, tout simplement. Puis elle me disait que au Super Bowl, la portion des femmes maintenant qui écoutent la NFL, c'est 50%. Puis il dit, la NFL a pas le choix de s'ajuster à ça. Puis on le voit, elle dit, de plein de façons différentes. Un, avec l'inclusion justement de femmes dans les personnels d'entraîneurs, ça prend des modèles pour les femmes. Évidemment, je pense pas qu'il va y avoir de joueuses bientôt dans la NFL, mais ça reste que c'est des belles histoires. Moi, je trouve ça très cool. Et l'autre point, ben, elle dit, tu le vois aussi dans les publicités. Les publicités un peu sexistes des années 80, elle dit, il y en a presque plus. Puis ça fait partie un peu du fait que de plus en plus, un plus gros auditoire féminin, autant au Super Bowl, mais le pourcentage aussi est très, très fort. Parce que là, ils ont dit, oh, il y en a qui l'écoutent juste au Super Bowl. Oui. Mais le pourcentage est vraiment en train d'augmenter dans les matchs de saison régulière. Ça tourne je pense, autour de 40%. C'est beaucoup 40%. Là. Moi, je m'attendais pas à des chiffres comme ça. J'ai été surpris quand elle m'a dévoilé l'ampleur des chiffres. Là, la vraie question, messieurs, c'est est-ce que il va y avoir un jour un entraîneur-chef femme dans la NFL? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est une bonne question. Tu m'aurais dit il y a 20 ans, est-ce qu'il va y avoir des coachs féminins dans la NFL? Je t'aurais probablement dit pas avant 100 ans. Ben écoute, ça a quand même augmenté. Ça a pris seulement 20 ans. Ben là, c'est peut-être la question maintenant qu'il faut se poser. La seule chose que j'ai à dire là-dessus, c'est que la NFL, c'est la ligue qui n'est pas nécessairement la première à ce niveau-là. C'est souvent la NBA qui set le ton dans ces choses-là. à NBA, ça faisait longtemps qu'il y avait des assistantes filles, des femmes dans la NBA comme assistantes. Puis moi, je pense vraiment que la première entraîneur-chef du monde sportif va venir de la NBA, qui s'appelle Becky Hammon, à travailler avec les Spurs de San Antonio. Moi, je suis convaincu qu'elle va avoir sa chance comme entraîneur-chef assez rapidement dans la NBA. Est-ce que ça, un jour, ça va se transposer dans la NFL? Je vous pose la question. C'est difficile à dire. Je pense que oui. Moi, je pense que ça va venir un jour, mais ça va prendre du temps, évidemment.
Très intéressant. Ouais. C'est très intéressant, Jean. C'est vrai que c'est des chiffres impressionnants. 40%, c'est 40% des femmes qui regardent un match le dimanche. Ça commence
aux États-Unis, qu'elle me disait, tu sais, le beaucoup plus populaire aux États-Unis qu'encore au Canada. C'est en train d'augmenter, mais ça prend quand même un peu plus de temps. C'est ça. Écoute, moi, c'est ma réflexion un petit peu. Puis tu vois que la NFL là, fait des efforts là, pour vraiment inclure la place, les femmes dans leur sport.
Je pensais, Jean, que tu allais nous dire que c'était un moment historique parce que les Browns sont au-dessus de 500 pour la première fois en 6 ans. C'est quand même historique aussi, ça.
Ah oui, c'est un volet historique du match.
Extrêmement important, mais écoute, je l'ai gardé pour moi, Steph.
C'est bon. Ça durera pas longtemps, là. Peut-être que tu aurais été mieux de le souligner cette semaine. Là. Ça risque de plus être le cas la semaine prochaine.
Ah, je suis pas certain, moi.
On va t'entendre dans tes prédictions tout à l'heure. Merci, Jean. On reste avec vous après la pause et on fait nos 4 essais.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Here comes first down! Here comes first down, Red Cashin.
On est de retour à la zone payante. Jean-Nicolas Cagnier en compagnie de Stéphane Cadorette et de Jean Carrier. C'est le match qui commence. C'est nos 4 essais. First down, premier essai. Stéphane, on va faire une course au sol avec toi. On sent que les divisions, il y en a qui sont complètement dominantes dans le football. Il y en a que moins. Plusieurs équipes à 0-8. Des divisions faibles, d'autres fortes. Il y en a des divisions qu'on pense qui pourraient se gagner à 8-8. C'est quoi le portrait de la situation?
Écoute, la NFC East avec les Reds, pas les Redskins, ça, c'est des vieilles habitudes. Il faut oublier l'équipe de Washington, bien sûr, les Cowboys, les Eagles, les Giants. Ça fait tellement dur, Jean-Nic. Tu parles de gagner une division à 8-8. Là. Moi, je commence à penser qu'on va peut-être pouvoir la gagner à 7-9, cette division-là. C'est aussi pire que ça. Les Cowboys et Washington sont en tête de la division actuellement, co-meneur à 1-2. Tu sais, c'est quand même pas une fiche qui est grandiose, là. Puis on parle des Eagles comme quoi c'est une catastrophe. Ils ont fait match nul contre les Bengals. Y a-tu quoi de plus poche qu'un match nul en passant, là? Ça devrait plus exister, à mon avis. Mais ils sont à 0 victoire, 2 défaites, 1 match nul. Puis la pire des choses là-dedans, c'est qu'ils sont à 1 demi-match de la tête. Donc, ça vous montre à quel point c'est une division catastrophique. Pour vous donner une idée, tu sais, je comparais un peu, je me suis demandé, moi, c'est-tu le pire début de saison dans l'histoire d'une division? Écoute, la fiche globale des 4 équipes est de 2 victoires, 9 défaites, 1 nul, donc un pourcentage de victoire de 208. Tu sais, même au baseball, là, c'est pas yob, ça, comme pourcentage.
Quand t'es à un demi-match du premier choix repêchage puis de la tête.
C'est ça. Exact. C'est ça. Ça veut tout dire. Ben, c'est le deuxième pire pourcentage à vie, finalement, là, en termes de victoire après 3 semaines. En 2002, la AFC du côté nord montrait un pourcentage de victoire globale de 200. Donc,
mais les gars, est-ce qu'il y a de la parité dans la NFL cette année?
Ben, il y a de la parité, mais il n'y a pas de parité entre cette division-là, puis particulièrement la NFC West, que ça, c'est l'inverse. Tu sais, tu regardes eux autres, les 49ers, qui sont actuellement derniers de division à 2 victoires, 1 défaite. C'est pas impossible que les 4 clubs de cette division-là soient en série. Là, on est rendu là. Les Cards, les Seahawks, les Niners et les Rams qui jouent tous du bon football. Mais si tu regardes ailleurs, c'est un peu la parité habituelle, à mon sens, à moi. Là, c'est vraiment qu'il y a une disparité très, très, très profonde entre la NFC Est et l'Ouest.
OK, deuxième essai. On y va avec Jean. On va y faire une passe. On va l'envoyer courir en dehors des lignes.
Je te dirais, envoie-moi sur un petit tracé là, dans les pas loin des lignes de côté, là, dans le bon vieux flat, parce que les tracés longs, ça va être difficile. Ouais.
OK, fait que je vais y aller pour une petite passe courte. Les avances de 20 points, Jean, qui se perdent cette année dans la NFL, là, on dirait qu'il n'y a plus personne qui est protégé, même avec une avance de 3 touchés. Nick Foles, en fin de semaine, qui est venu sauver son équipe. Parle-nous un peu des avances qui se perdent. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu dans la tête des joueurs? Es-tu les coachs?
Ben, première des choses, faut jamais oublier que le football, c'est un sport de momentum. Puis quand tu commences à prendre confiance, ben évidemment, le match peut changer rapidement. Il peut y avoir des revirements, évidemment, qui changent la donne très, très, très vite. Fait que quand tu mets ça en perspective, je pense que je dirais pas que c'est normal, mais ça peut arriver. Ce qui est problématique un peu plus cette année, c'est qu'il y en a beaucoup plus souvent. Puis je pense que ça s'explique également par le fait que les attaques sont rendues nettement meilleures qu'elles l'étaient dans le passé. Donc, c'est vrai que selon moi, les avances, ça va devenir de plus en plus difficile de les conserver si tu deviens conservateur à l'attaque. Donc, si tu mènes par 20, puis tu deviens conservateur, tu te dis, bah, regarde, on va courir les 3 essais, puis on va écouler un peu de temps, ça marchera pas. Tu vas te faire arrêter, l'autre équipe va prendre le ballon, vont commencer à avoir du momentum parce que là, ils t'ont arrêté en défensive. Puis là, ça se peut que tu commences à être dans le trouble. L'autre point aussi, je pense, qui aide beaucoup, le fait là qu'il y a plus de remontées, c'est que les équipes sont habituées maintenant de travailler avec un tempo accéléré. Ils peuvent passer d'un tempo lent à un tempo accéléré, donc évidemment, les attaques sans caucus sont nettement plus efficaces, nettement supérieures à ce qu'elles étaient dans le passé. Tu sais, je me rappelle, il y a 15 ans, tu sais, avoir une attaque où ce que le carrière faisait une belle séquence offensive dans les dernières 2 minutes du match, puis disait « wow, il a bien fait ça ». Maintenant, c'est presque rendu la norme. Si t'es pas capable de faire ça dans la NFL aujourd'hui, ben, il faudrait peut-être que tu trouves un nouveau carrière ou peut-être un nouveau coordinateur à l'attaque parce que les équipes sont capables d'opérer très, très rapidement. Le point là-dedans, Jean-Nic, c'est si par contre t'es en mesure de courir la balle avec efficacité en deuxième demi, ben, normalement, là, tes avances de 20 points, ils vont quand même être en sécurité. Les équipes qui sont pas capables de le faire, ben, c'est des équipes qui sont un peu plus dans le trouble. Et les Falcons, si on regarde ce qu'ils ont fait, ils ont été incapables de courir en deuxième demi lors des 2 derniers matchs. Ben, c'est un petit peu pour ça que ça explique leur déconfiture. Ça est probablement un manque de leadership flagrant dans cette équipe-là.
Oh, quel cauchemar ça doit être, là. Je comprends, les gars, que vous avez pas des clubs qui gagnent tout le temps, mais être fan des Falcons, là, oh, ça doit être terrible ces temps-ci, depuis le Super Bowl.
Depuis le Super Bowl, c'est...
Depuis le Super Bowl, le fameux Super Bowl contre les Pats, ça fait 6 fois que les Falcons échappent une avance d'au moins 15 points. Pensez-y, les gars, là. Tu sais, ça fait pas 20 ans de Super Bowl-là, ça fait quoi, 4 ans? C'est énorme, là. T'es supposé d'échapper une avance de 15 points au quatrième quart une fois aux 20 ans, là. Tu sais, c'est vraiment une malchance qui t'arrive. Mais là, ça fait 6 fois que ça arrive. C'est signe pour moi d'une tangente assez inquiétante, là, du côté de l'équipe, de la préparation, du mental.
Et je vais en rajouter, Stéphane, c'est jamais arrivé qu'une équipe de la NFL laisse filer des avances de 15 points et plus avec moins de 8 minutes 2 fois dans une saison. Ben, les Falcons viennent quand même de le faire de façon consécutive. Donc,
et c'est le mois de septembre n'est pas fini.
Non, et c'est quand même impressionnant.
Hey, puis Jean, c'était intéressant ce que tu disais là, sur les remontées. Puis je me permets juste d'ajouter un point très rapidement, mais je me suis posé la question, moi, est-ce qu'il y a autant de remontées cette saison au quatrième quart? Est-ce qu'il y a un facteur qui peut aussi influencer cette année particulièrement, puisque c'était pas le cas les autres années? C'est le fait qu'il n'y a pas de foule.
Ouais,
écoute, moi, j'ai compté 9 matchs cette année où il y a eu des changements de meneur au quatrième quart dans les derniers instants, dans des stades où c'est l'équipe visiteuse qui effectue la remontée. Tu sais, ça aide énormément à la cadence, au tempo, à l'attaque quand t'as pas à affronter la foule adverse. Là, tu sais, je le souligne. Bon point, je sais pas si c'est un facteur dominant, mais je pense que ça mérite d'être mentionné cette saison.
À tout le moins, c'est un facteur facilitant. C'est un excellent point, hein, Stéphane.
Troisième essai, les gars, là, je vous donne les clés d'une équipe de la NFL. Je sais que vous êtes qualifiés pour être propriétaire ou entraîneur d'une équipe de la NFL. Fait que c'est pour ça que j'ai pensé à vous. Et là, avec le match du lundi où on a vu les Chiefs et les Ravens se disputer un match, un par la passe et l'autre en essayant d'installer un jeu au sol, on se pose la question aujourd'hui, si vous aviez à construire une équipe, est-ce que vous commenceriez au sol ou à l'attaque? Quel joueur vous prendriez en premier dans votre gang? Ah oui, donc, Steph, comment?
Ben, écoute, la clé dans ta question, c'est si vous bâtissiez une équipe aujourd'hui. Parce qu'il y a 15-20 ans, moi, je serais allé au sol sans hésiter. T'sais, c'était un peu la tendance à ce moment-là. Actuellement, moi, je pense que le sol, c'est un luxe fort pertinent. Là, t'sais, faut que tu développes ton jeu au sol. Tu peux pas être unidimensionnel. Ça, c'est sûr dans mon esprit. Mais si tu me demandes avec quoi je construis, ben, j'y vais d'abord sur la ligne offensive, la ligne défensive, puis la priorité à part de ça, c'est d'établir une attaque aérienne qui est compétente. Écoute, puis je dis pas ça à cause de la victoire des Chiefs d'hier, là, ça influence pas mon opinion pour un match. Moi, je regarde dans les dernières années, mettons qu'on prend dans les 10 dernières années, j'ai regardé, j'ai fait la vérification, il y a 9 des 10 derniers champions du Super Bowl qui avaient une attaque par la passe dans le top 15. Tu sais, c'est pas rien. Là. Ça veut dire que c'est pas un simple hasard. Bon, c'est arrivé des Chiefs l'an passé, mais les années d'avant, c'était pas ça. Écoute, c'est des attaques à répétition dans le top 15. Quand je regarde, en contrepartie, les 10 même derniers champions du Super Bowl, au niveau de la course, il y en a 5 qui étaient dans le top 15, il y en a 5 qui étaient pas du tout dans le top 15. Là. Il y en a même qui étaient très loin là, derrière. Je pense, exemple, aux Packers qui ont gagné le Super Bowl en 2010, qui étaient 24e au sol. Les Chiefs, l'an dernier, 23e au sol. C'est des exemples parmi d'autres. Ce que ça veut dire, c'est que tu es appuyé par un bon jeu au sol. C'est évident que c'est un bénéfice. C'est évident que c'est un gros plus dans ton attaque. Mais moi, tu me donnes le choix. Je veux absolument y aller par la passe en premier. Je veux que mon corps arrière soit capable de faire les gros jeux au gros moment. Puis il y a de plus en plus de bons vieux shootouts dans la NFL. On le voit encore cette année, en début de saison. C'est hallucinant, là. Donc, tu veux être capable d'inscrire pas seulement des points, mais beaucoup de points. Pour moi, ça, c'est la preuve qu'il faut y aller au sol, par la passe. Puis les porteurs de ballon dominants dans les dernières années, oui, il y en a à gauche, à droite, mais c'est pas nécessairement eux qui vont chercher la grosse game. Tu sais, Damien Williams, l'année passée, qui était porteur des Chiefs, je pense qu'il a fini comme 41e au niveau des gains au sol là, durant la saison. Donc,
mais avant toute chose... Les équipes, ils vont par comité, mais il reste que le jeu au sol, des fois, est plus important.
Comme je t'ai dit, oui, c'est pour ça que je t'ai pas parlé de porteur de ballon comme tel, mais plus d'attaque au sol en intro. C'est que, oui, c'est important, mais est-ce que c'est plus important qu'une attaque aérienne qui fait des ravages? Pour moi, la question actuellement ne se pose pas. Il y a 5-10 ans, c'était autre chose, mais en ce moment, j'y vais avec la passe. Puis ça me fait de la peine de vous dire ça. Moi, je suis un ancien porteur de ballon, fait que faut que je pile sur mon orgueil pour vous donner cette réponse-là, mais j'y vais avec ma logique. Et
avec quel joueur tu partirais ton équipe?
Ah, moi, c'est Mahomes, là, sans aucun doute. Écoute, j'adore Russell Wilson, là, puis en ce moment, Russell Wilson est le MVP dans la NFL, malgré le match de Mahomes d'hier, parce qu'il est beaucoup moins bien entouré que Patrick Mahomes, à mon sens. Mais si tu me demandes avec qui je pars, moi, j'ai vraiment aucune hésitation en ce moment. Il est jeune, il est dominant, il est extrêmement intelligent, il est dédié à son travail. C'est une bonne image pour ta franchise. Il a tout ce qu'il faut. Tout joue pour lui. Moi, c'est sans hésitation, les yeux fermés, j'y confie le ballon.
Patrick Mahomes, c'est pas compliqué, c'est Joe Montana qui est devenu athlétique. C'est l'image que j'ai. C'est un carrière générationnel. C'est un carrière que j'ai... Honnêtement, j'ai jamais vu... Il fait des choses que j'ai jamais vues, honnêtement, sur le terrain avant lui. Il est vraiment impressionnant. Moi, juste pour le bien de la cause, Jean-Nic, moi, je vais me porter un peu plus sur le fait de l'importance de construire quand même avec le la course au sol. Par contre, je dois admettre que si j'avais le choix, ça serait Patrick Mahomes également qui serait mon choix. Mais advenant que tu me donnes Lamar Jackson, la première des choses qui est importante, moi, je pense, c'est de bâtir autour de ton carrière. C'est un carrière qui est très mobile, qui est capable de courir, ben ajuste-toi à lui et à ses forces, puis bâtis autour de lui. C'est ce que les Ravens ont fait. Les Ravens, honnêtement, ça, là-dessus, je vais donner un gros crédit à Coach Harbaugh qui a compris ça, puis il a donné les outils pour que Lamar Jackson soit ait du succès dans la NFL. Et ça, pour moi, c'est majeur. Évidemment, comme Stéphane l'a mentionné, les fronts sont super importants. Dans la NFL, c'est par là que ça va se gagner. Puis le football, en général, c'est sur les fronts que ça se gagne encore. C'est primordial, c'est crucial. Donc, carrière, les fronts, après ça, tu construis autour avec ce qu'on appelle les skills possession de chaque côté du ballon. Ensuite, ben, vas-y, au Jean. Sol, ben écoute, au sol, il y a encore des gros avantages à être solide au sol. La première des choses, c'est que peu importe la température, tu vas être capable de fonctionner efficacement. Ça, c'est une chose, par contre, qu'au niveau aérien, ça s'est amélioré. Quand il pleut, les stades synthétiques également contribuent au fait que tu es capable de lancer le ballon quand même avec efficacité. Mais ça sera jamais avec moins de risques que de simplement remettre le ballon à un porteur de ballon ou de simplement courir avec le ballon si t'es carrière. C'est plus simple, c'est plus facile. Puis quand la température de novembre arrive, ben ça se peut que tu sois capable d'opérer peu importe ce qui arrive. Qu'il neige, qu'il pleuve, que ce soit à l'intérieur, ton attaque, elle va être en mesure de fonctionner de toute façon. Ça, c'est un point, un gros plus pour les équipes qui sont bâties là avec des attaques au sol. Puis c'est une des façons aussi de contrôler l'horloge et de garder les puissances offensives sur le banc. Évidemment.
Mais Jean, j'ai une question. Ouais, les gros gars sur la ligne, là, qui protègent son carrière, est-ce que tu les choisis en fonction du style de jeu? C'est-à-dire, est-ce que tu vas prendre le même gars, s'il est bon pour la passe, pour en protection de passe, est-ce qu'il va être aussi bon pour la course?
Non, vraiment pas. C'est des forces et des faiblesses du côté des joueurs de ligne à l'attaque. Exemple, chez les Chiefs, je suis convaincu qu'on a mis beaucoup d'emphase sur la protection de passe. Si t'es pas capable de protéger chez les Chiefs, c'est vraiment un problème parce que c'est une équipe qui lance près de 70% du temps. D'ailleurs, tu sais, je suis d'accord avec Stéphane qu'il y a de plus en plus d'équipes qui gagnent, qu'il faut que tu sois bon par la passe pour gagner, mais ça demeure que les Chiefs, sont un peu bizarres parce qu'ils lancent vraiment plus qu'ils courent. C'est une des premières équipes qui a vraiment du succès de cette façon-là. Tu avais nommé les Packers dans le temps. Les Packers étaient quand même balancés. Il n'y avait pas nécessairement du succès à courir, mais ils continuaient à courir pour garder un équilibre. Moi, c'est ce que je crois beaucoup comme ancien entraîneur. Je crois à l'équilibre. J'aime les équipes qui sont équilibrées, qui sont capables de courir et lancer, qui frôlent, je dirais, le 50-50. Ça peut aller 60 passes, 40 courses. Mm-hmm. Moi, c'est ce que je vise comme commentateur à l'attaque. Par contre, les Chiefs, ils font mentir un peu ça parce qu'ils ont prouvé l'an passé qu'ils sont capables de lancer, de gagner en lançant 70% du temps. Ça, c'est ce qui est en train de changer présentement dans la NFL.
Mais c'est pas toutes les équipes qui ont Patrick Mahomes.
Exact.
Faudra voir aussi si c'est une anomalie dans le temps ou si c'est une tangente qui s'installe tranquillement. Là. Ça, on ne le sait pas encore.
Mais tu sais, on l'a vu hier, tu peux pas donner la balle à Lamar Jackson 70% du temps puis espérer gagner. Il est pas bâti pour ça. C'est pas dans ses forces. Puis honnêtement, hier, dans le Monday Night, j'ai trouvé que les Ravens avaient abandonné la course beaucoup trop rapidement.
Merci, Jean. Merci, Steph. Fait que je comprends qu'une équipe équilibrée, c'est toujours mieux, évidemment, mais l'attaque va peut-être gagner plus le Super Bowl dans l'époque dans laquelle on vit. Merci, les gars. On restait là. Après ça, on s'en va pour le quatrième essai. On décide si on y va ou on dégage. On est de retour à la zone payante avec Jean Carrier et Stéphane Cadorette. Les gars, quatrième essai, on y va ou on dégage?
on y va tout le temps. Il y a juste Doug Peterson qui décide de dégager.
En prolongation, mesdames, messieurs, contre les Bengals, faut le faire.
Hey, c'est peut-être Donovan McNabb qui le conseillait, là, lui qui pensait qu'un match nul au football, c'était pas possible.
Je l'avais oublié, celle-là. Bon rappel historique.
Oui, exact. Écoutez, les gars, question à rafale. OK, on est au quatrième essai. Allez-y rapidement. Je vous pose des questions, puis vous me dites oui ou non. Là, je sais qu'il a décidé qui sera le coach, le corps arrière en fin de semaine pour les Bears. Mais si vous étiez le coach des Bears, est-ce que vous faites jouer Nick Foles ou Mitch Trubisky?
Pour moi, c'est Nick Foles. Ça, oui. Même pas comme question. Il y a plus d'expérience, mais c'est surtout aussi que tu es capable de ouvrir ton cahier de jeu. T'sais, avec Trubisky, c'était très conservateur. Puis à un moment donné, tu te posais toujours des questions sur OK, je vais y donner cette combinaison de tracés-là, mais est-ce que la balle va-tu être dans les estrades ou va être dans les mains de mon joueur ou des mains de l'autre équipe? Tu savais jamais ce qu'il était capable de te donner. Nick Foles, on l'a vu, ce qu'il est capable de te donner. Il ne jouera pas comme ça toutes les semaines, Nick Foles, parce qu'il a été extraordinaire dans le retour des Bears. Mais définitivement qu'il va t'en donner plus. Les Bears sont plus dangereux avec Nick Foles qu'avec Trubisky.
Moi, j'y vais avec Nick Foles sans hésiter, là. Mais écoute, je vais me permettre une affaire. Nick Foles, ça reste qu'il a fait des miracles l'année du Super Bowl avec les Eagles, mais en saison régulière, tout ce qu'il nous a montré dans sa carrière, c'est que c'est pas un corps arrière si hot. Je serais pas surpris que les Bears retombent assez vite sur le plancher des vaches. C'est l'équipe actuellement de 3-0 la plus fragile, puis c'est l'une des équipes les plus fragiles que j'ai vues là, depuis longtemps à 3-0. J'y crois pas beaucoup, que ce soit Foles ou Trubisky, pour ma part.
Je suis d'accord avec Stéphane.
Est-ce que le coach des Lions, Matt Patricia, va coacher 16 matchs cette année?
Je vais y aller, oui. Pour moi, c'est, il n'y a aucun doute. Je pense qu'ils vont y donner l'année complète là, pour se faire valoir. Puis les Lions en ont joué une très bonne face aux Cards la semaine dernière. J'ose croire qu'ils vont... Je pense qu'ils sont meilleurs que leur fiche indique pour l'instant. J'espère que les... Ouais, je pense que les Lions sont légèrement supérieurs à ce qu'ils montrent. Faut pas oublier qu'ils auraient pu battre les Bears facilement. Ben, avec... Donne des mains à M. Swift, puis c'est les
ouais, Lions... Oui, c'est vrai, l'échappée qui coûte cher.
Les Lions sont 2-1 présentement. Donc, j'ai hâte de voir, mais je pense que c'est un club qui s'améliore tranquillement.
Stéphane?
Oui, Patricia va finir l'année pour la simple et bonne raison que les Lions vont à tout bout de champ sortir une grosse performance comme ça. C'est un peu ça, les Lions, depuis des années. Un club qui joue extrêmement mal quand tu t'attends qu'ils ont des chances de gagner, mais qui vont sortir une game pas possible quand t'es enterré. Donc, ils sont jamais totalement morts, sont jamais hors de l'équation. C'est un club qui va gagner, quoi, 5, 6, 7 matchs cette année au final. Donc, ça va permettre...
À l'image de Matt Stafford,
ben, tu sais, c'est ça un peu, c'est des années, ça stagne, c'est toujours un peu la même chose. Ils s'en sortent pas, les Lions, on dirait. Ils sont meilleurs que leur fiche l'indique, ils ont plus de talent que leur fiche l'indique, mais ça finit toujours un peu de la même façon. Donc, je pense que Patricia va payer à la fin de l'année, mais pas durant la saison.
OK, est-ce que Adam Gase, lui, à New York, va coacher 16 matchs cette année?
Moi, je pense qu'il va peut-être coacher son dernier jeudi. C'est rendu là, c'est très, très, très grave. C'est pas chic du tout ce qui se passe avec les Jets, puis je serais pas surpris. Après ça, t'as 10 jours après le match de jeudi pour essayer de te réorienter. C'est le moment où souvent les organisations agissent.
Ouais, moi je pense que Adam Gase, il est parti, il est plus à New York, puis ça va enfin libérer les Jets, parce que écoute, ils se battent même pas présentement. C'est horrible, les Jets de New York. Il est out, Johnny.
Puis là, vous savez, c'est quoi, hein? On dit ça, puis ils vont gagner 31 ouais. à 10 jeudi. C'est ça qui arrive.
C'est pas comme s'ils jouaient contre une puissance non plus jeudi. Ça se peut fort bien. Est-ce que Dan Quinn, lui, à Atlanta, va coacher 16 matchs cette année?
Ça va être difficile aussi parce que les Falcons, là, en ce moment, c'est une équipe qui croit plus du tout en ses moyens. Chez Arthur Blank, qui est un propriétaire qui a la réputation d'être très patient, il fait pas de gestes à l'emporte-pièce, là. Mais là, ça devient difficile de justifier son emploi. L'équipe qui échappe match après match dans des circonstances toujours de plus en plus loufoques, là, je le vois mal terminer l'année.
La semaine dernière, je t'aurais répondu qu'elle allait terminer l'année, mais là, écoute, avec deux matchs au quatrième quart, si tu te fais remonter de la sorte, ça devient extrêmement pénible. Moi, je pense qu'il va perdre son emploi aussi avant la fin de l'année.
Les Rams ont failli remonter les Bills pour les surprendre et partir avec la victoire, mais Josh Allen a sauvé le match, mais Aaron Donald a eu tout un match, tout un quatrième quart. Si vous aviez un mot pour le décrire?
Pour moi, c'est prolifique. Parce qu'il est capable de produire dans toutes les circonstances. Des fois, tu le vois pas nécessairement sur la feuille de stats parce qu'il n'y a pas nécessairement de sac, mais le gars, il est doublé ou il est triplé. T'sais. Fait que c'est d'autres qui en profitent à sa place. Par contre, quand tu l'isoles ou que tu réussis à l'isoler dans le schéma défensif, ben là, il assassine le gars devant lui parce qu'il est juste trop vite, trop rapide, trop technique. C'est un joueur absolument extraordinaire, prolifique pour moi, c'est le mot clé.
Moi, j'aurais tendance, tu sais, il y a tous les qualificatifs possibles, là, monstrueux, démoniaque, tout ça, là, mais je vais y aller avec un qualificatif auquel on pense peut-être pas, mais j'irai avec seul. Parce qu'Aaron Donald doit se sentir un peu seul, je trouve, avec la défensive des Rams en ce moment. Il accomplit des choses extraordinaires, mais tu regardes, c'est lui qui applique la pression, c'est lui qui va chercher les sacs. Je regardais au niveau des QB hits, là, c'est-à-dire le nombre de fois qu'on va frapper le corps arrière adverse. Aaron Donald est rendu à 8 déjà en 3 matchs. Le plus proche dans son équipe en a 3. Tu sais, il fait du travail colossal. Ça lui donne encore plus de mérite, mais il doit se sentir bien, bien seul. Tu sais, il y a quelques années, il était extrêmement bien entouré. Là, il y a à peine 2 ans, Aaron Donald. Je trouve qu'en ce moment, c'est une défensive là qui tu sais, recommence à chercher son identité. Puis Aaron Donald va en avoir pour un bout à être seul un peu dans sa barque.
Philip Rivers a atteint le plateau des 400 passes de toucher. C'est un club sélect, là, ça. Il n'y a pas grand corps arrière qui se sont rendus là. Mais pourtant, c'est comme s'il est encore pas dans les discussions pour le Hall of Fame, mais les gars, s'ils arrêtaient de jouer aujourd'hui, là, Philip Rivers devrait-il être au temple de la renommée?
C'est une question qui est complexe, qui est difficile. Évidemment, si tu regardes le succès que ce gars-là a eu en série, la réponse est non. Par contre, si tu regardes ses statistiques, je dirais que la réponse est beaucoup plus oui que non. Ça va vraiment dépendre de ceux qui votent, qu'est-ce qu'ils vont prioriser. La seule chose que j'ai à dire, par contre, c'est qu'au niveau des carrières, la NFL est en train de changer. Est-ce que, tu sais, il faut voir que les personnes qui votent pour le temps de la renommée s'ajustent également. Parce que les statistiques que Philip Rivers va donner, ben, il y en a une trollée de nouveaux carrières qui vont avoir ce genre de statistiques-là, de stats-là dans 5 ou 10 ans. Donc, c'est ça.
Parce qu'être carrière en 2020, c'est pas mal plus facile, entre guillemets, qu'en 1980 où il fallait être un warrior puis tu te faisais frapper presque à tous les...
Ben, ça l'est plus parce que, évidemment, ben, les règles facilitent l'attaque. Ça, c'est sûr et certain. Puis honnêtement, le skill set que les joueurs ont présentement est nettement supérieur à ce qu'il y avait dans les années 80. Mais pour répondre à ta question, je vais y aller, oui, mais oui, chambranlant.
OK.
Pour moi, Philip Rivers, non, je le vois pas au temps de la renommée. Écoute, à moins cette année qu'il aille chercher un Super Bowl avec les Colts, ça changerait complètement la donne, là, mais...
Non, s'il arrête aujourd'hui de jouer.
S'il arrête aujourd'hui, non. Moi, c'est clair. C'est un très bel accomplissement. Il vient de rejoindre, comme tu dis, le club des 400 passes de toucher en carrière. Ça mérite d'être souligné, là. Honnêtement, c'est pas rien. Puis on a beau dire que la NFL aujourd'hui facilite la vie là, aux attaques. Ça reste qu'il y en a très peu qui se rendent à ce plateau-là, mais on va le voir de plus en plus. C'est ça l'affaire, ça s'en vient. Tu sais, il y a des jeunes corps arrière actuellement de 5-6 ans d'expérience qui sont en train de battre des records de franchises déjà, là, tu sais, des franchises qui existent depuis 60-70 ans. Ça va se faire de plus en plus. Je pense que ce qui va déterminer ton CV là, pour aller au temple de la renommée, c'est de plus en plus les victoires dans les grandes occasions. Est-ce que tu es un personnage aussi qui a marqué ta ligue, ton époque, ton équipe? Je peux pas dire, moi, à ce niveau-là, que Philip Rivers, tu sais, le journaliste américain Peter King dit souvent, Est-ce que tu peux raconter l'histoire de tel joueur là? Est-ce que tu peux raconter l'histoire de la NFL sur une période sans raconter l'histoire de tel joueur? Puis Philip Rivers, pour moi, il est passé, il était là, mais il y en a eu des bien meilleurs que lui dans la même époque. Donc, je le vois pas rentrer au temple de la renommée là, avec les Eli Manning, les Ben Roethlisberger et autres qui étaient là en même temps que lui, les Peyton Manning, les Tom Brady, les Drew Brees, les Aaron Rodgers. Tu sais, on vient d'en passer quelques-uns là, sans même.
Et c'est tous des gars qui ont gagné des Super Bowls. C'est malheureusement
Stéphane, ce qui. Stéphane, par contre, je vais te poser la question. Avec le fait qu'il a concilié travail, famille, dans son cas, je pense que ça veut mériter quasiment une place au temple de la renommée.
Ouais, ben, il y aura peut-être une plaque pour lui au ministère de la famille et de l'enfance à quelque part, là, mais temple de la renommée, là, j'arrive pas à le voir là. Puis c'est pas que je dénigre Philip Rivers, c'est un très bon carrière. Il a connu une vraiment une belle carrière. Mais est-ce qu'on invite au temple de la renommée les très bons joueurs ou les joueurs qui redéfinissent l'excellence? C'est ça un peu mon point.
OK, les gars, retour de la chronique déprimée ou pas déprimée cette semaine. Je vous pose la question si les joueurs ou les entraîneurs ou les propriétaires même dont je parle devraient être déprimés ou pas déprimés. On va commencer avec un gars, je connais peut-être votre réponse, là. C'est Jason Garrett, le gars qui s'occupe de l'attaque des Giants, qui ont fait très peu de points et qui ont besoin de 45 secondes pour faire une pause.
Ouais, Jason Garrett, pour ceux qui se rappellent pas de lui, c'était le gars qui applaudissait tranquillement sur le banc des Cowboys aussi pendant des années.
Pour déprimer, un placement.
Écoute, ce qui me déprimerait, moi, être Jason Garrett, là, c'est de voir le jeune Daniel Jones qui continue match après match de commettre des revirements. Vous allez me dire, ouais, mais il est bien seul à New York, c'est pas facile, c'est vrai. Il est jeune, il a pas beaucoup d'expérience. C'est pas un mauvais carrière jusqu'ici, mais les revirements qui se répètent, là, ça m'inquiète un petit peu de ce côté-là. 3 fois en 3 matchs cette année, au moins 2 revirements. C'est arrivé 6 fois en 13 matchs la saison passée. C'est beaucoup. Tu sais, ça commence à devenir un problème là, quand ça se répète. Puis que c'est récurrent comme ça. Jason Garrett a des raisons, là, sans être déprimé, d'être très inquiet.
Ça, c'est un problème parce que il est très, très mal protégé. Puis c'est la faute des Giants qui l'ont envoyé, qui l'envoient à la boucherie semaine après semaine. Puis c'est normal pour un carrière de devenir un peu craintif aussi.
Un peu comme Sam Darnold.
Exact. Mais honnêtement, moi, je pense qu'il est déprimé. Monsieur Clapper n'a finalement plus grand-chose à applaudir, honnêtement.
Est-ce que Arthur Blank, le propriétaire des Falcons, a des raisons d'être déprimé ou il n'est pas déprimé? Je comprends qu'il y a un bateau de 300 pieds, là, mais quand même.
Moi, je pense qu'il est déprimé, Arthur Blank, parce qu'il se rend compte probablement qu'il va falloir qu'il mette son entraîneur-chef dehors. Puis tout le monde dit qu'il s'entend très bien avec son entraîneur-chef. Il respecte énormément, puis là, il se rend compte qu'il va falloir qu'il le mette à la porte. Fait que je pense que ça lui fait passer des nuits blanches, Monsieur Blank.
Stéphane?
Oui, il a raison d'être déprimé. Moi, je pense que c'est d'abord et avant tout parce que la décision de changer le régime en place, il pouvait très bien la prendre la saison dernière. Donc, en ce moment, tu aurais déjà peut-être un nouvel air d'aller, tu sais, un vent de fraîcheur qui soufflerait sur l'équipe. Écoute, les Falcons, c'est pas fini, là. Ils ont montré qu'ils pouvaient bien jouer malgré tout, là. C'est juste qu'ils s'effondrent de façon monumentale au 4e quart. Mais si tu regardes l'ensemble de leurs matchs, ils ont montré qu'ils pouvaient rivaliser contre des bonnes équipes. Mais là, honnêtement, ils sont en perte de contrôle. Donc, je vois pas comment M. Blank pourrait être positif actuellement.
Est-ce que Tim Kelly, le coordonnateur à l'attaque des Texans, est déprimé ou pas déprimé ce matin?
Il est pas déprimé. Les Texans ont joué un bon match quand même face aux Steelers. Ils ont manqué de carburant en deuxième demi, mais ils jouaient face à une excellente défensive. Une défensive pour moi qui est probablement dans le top 3 facile de la NFL, peut-être même la meilleure. Fait que moi, je pense qu'il y a des choses positives qui s'en viennent pour les Texans.
Oui, je suis exactement du même avis. Écoute, j'aurais aimé ça renchérir, mais c'est exactement là, mon point de vue. Les Texans, on n'a pas vu le meilleur encore. Là. Ils sont creusés un trou assez profond, mais le côté très difficile de la cédule est derrière eux. Donc, Tim Kelly n'a pas le droit d'être déprimé là, pour l'instant du moins.
Bon, ben je vais te faire plaisir, Steph.
En passant, juste une petite statistique. Oui. Il y a seulement 7 équipes dans l'histoire de la NFL qui ont fait les séries avec une fiche de 0-3.
Bon, ben, ça y est, tu viens de le déprimer, là.
Ah ouais, c'est ça, là. Ça y allait bien. Est-ce que Mike Zimmer, ton coach, il doit être déprimé ou pas déprimé ce matin, comme ses partisans?
Ben, il devrait pas perdre sa job, si c'est un peu ça là, la question, parce qu'il a signé une prolongation de contrat de plusieurs saisons au mois de juillet. C'est plus les Vikings qui doivent être déprimés en ce moment. Mike Zimmer, écoute, on s'attendait à une saison un peu plus difficile parce qu'il rebâtissait la tertiaire au grand complet, rebâtissait la ligne défensive aussi, puis l'identité des Vikings et de Mike Zimmer depuis qu'il est là en 2014, ça a toujours été une grosse défensive. Donc, ça allait être une année de transition, mais sincèrement, des résultats aussi dégueulasses qu'en ce moment, c'est plus là où c'est déprimant pour Mike Zimmer, parce que qui dit transition dit pas déconstruction non plus. Puis ils se font déconstruire à chaque semaine, les Vikings. Cette semaine, ils ont échappé une avance de 12 points contre les Titans. Les Titans qui n'ont pas nécessairement un club bâti pour faire des grosses remontées. T'sais. Ça se fie surtout au jeu au sol. C'est très étonnant ce qui se passe. Comment le club a pu devenir si mauvais si rapidement? Mais cela étant dit, la marque de confiance que les propriétaires ont démontré à l'endroit de Zimmer cet été lui garantit à toute fin pratique de revenir pour au moins une autre saison, à moins d'un désastre monumental. Mais je pense pas en ce moment qu'il est déprimé, sauf que je pense qu'il se gratte la tête pas mal, puis qu'il commence à chercher des solutions. Puis
on dirait que c'est toi vraiment qui se gratte la tête. Là.
Ben oui, je te dirais que je comprends. Comme je te dis, je m'attendais à une saison peut-être de 8-8, 7-9, 9-7 dans ces eaux-là. Ils sont partis pour une saison beaucoup plus difficile que ça. Ça, c'est la surprise.
Mais
pour moi,
curieusement, Kirk Cousins réussit toujours à rebondir. Peut-être qu'il va réussir cette année. Jean, est-ce que Mike Zimmer doit être déprimé ou pas déprimé à l'heure où on se parle?
Un petit peu, parce que là, présentement, les Mauves ont perdu leur identité défensive. Ça va se rebâtir, j'ose croire, durant la saison. Mais ça va être une saison quand même difficile pour les Vikings.
Une facile pour vous autres, là. Les partisans de football de la ville de New York.
Oh boy.
Sont-ils déprimés ou sont pas déprimés?
Ils sont passés le stade de la déprime, eux autres. Moi, si j'avais des amis partisans des Jets et des Giants, je les appellerais. Je voudrais m'assurer qu'ils vont bien, qu'on peut aller prendre une bière ensemble, qu'ils peuvent me parler quand ils veulent, jour et nuit. Je leur laisserais mon numéro affiché sur leur frigo. Non, ça va vraiment, vraiment pas bien. Là, écoute, c'est vraiment pas chic ce qui se passe là. Les deux clubs de New York qui sont 0-3, écoute, c'est arrivé trois fois ça dans l'histoire de la NFL, en 1976, en 1996 et en 2020. Alors, c'est la troisième fois seulement. C'est pas chic dans la grosse pomme.
Jean, t'envoies-tu des antidépresseurs à New York aussi?
Ah oui, t'en envoies des tonnes et des tonnes, puis honnêtement, les partisans de football de New York commencent à sentir comment les minables Knicks de New York se sentent, les partisans. Il n'y a pas grand-chose au niveau sportif à New York qui va bien. Écoute, les Knicks, les Rangers, les deux clubs de football, les Mets, ça met toute la pression sur les Yankees de New York.
Ça met toute la pression sur Alexis Lafrenière aussi.
Exact.
Oui. Et puis, je pense que ces deux équipes-là sont contentes finalement qu'il n'y ait pas personne dans les estrades, parce que je suis pas sûr que quand ils font leur petite course pour rentrer au vestiaire.
On aurait vu beaucoup de sacs en papier dans les estrades.
Ouais. OK, les gars, en terminant, là, nommez-moi un joueur qui est disponible sur les ligues de fantasy football que vous iriez chercher cette semaine là, pour surprendre vos adversaires.
Moi, j'en parlais tantôt, j'en ai juste glissé un mot rapidement, mais Gabriel Davis, receveur des Bills de Buffalo, il vient de franchir la barre des 100 verges. On sait qu'il y a Stephon Diggs, on sait qu'il y a John Brown, il y a Cole Beasley, mais je pense que c'est un gars qui va avoir, tranquillement, pas vite, de plus en plus d'occasions. Au camp d'entraînement, la chimie était extrêmement bonne avec Josh Allen. Tu sais, quand je lisais les nouvelles par rapport au camp des Bills, c'est le joueur qui ressortait jour après jour après jour des attrapés spectaculaires. C'est normal qu'il ait commencé l'année un peu plus silencieusement, mais je pense qu'on va de plus en plus le voir intégré dans le plan de match de l'équipe. Ils n'auront pas le choix, il a l'air vraiment très talentueux.
Johnny?
De mon côté, rien d'extraordinaire. Je vois en raison que je vois avec Carlos Hyde, porteur de ballon avec les Seahawks, simplement parce que Chris Carson est blessé. Mmh. On ne sait pas encore le statut de Carson. Bon, va-t-il revenir cette semaine? Allez donc chercher Hyde, c'est une belle couverture de sécurité.
OK, merci les gars. On fait une petite pause, puis après ça, ben, on regarde cette semaine qui va gagner, qui va perdre. C'est vos prédictions.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
On est de retour à la zone payante. On y va avec les prédictions pour la semaine 4. Déjà la semaine 4, milala. OK. Jeudi, gros match. Ça va être Denver contre New York Jets, les Broncos qui affrontent une équipe en perdition. Stéphane.
Les Broncos par défaut, et comme disait Forrest Gump, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet.
Je vois dans le toilet ball le premier de la saison. Je vois avec les Broncos parce que j'ai simplement aucune confiance aux Jets.
OK, les Saints contre les Lions.
Je vois avec les Saints. Puis je m'attends peut-être à un match serré. Ça va être difficile pour les Saints, mais Drew Brees va faire la différence.
Oui, les Saints qui vont pouvoir surmonter un peu le moral en exploitant la tertiaire des Lions. Donc, une victoire même assez confortable, je pense.
Les Cards contre les Panthers, Arizona en Caroline.
Les Cards vont se reprendre après un match un petit peu plus difficile la semaine dernière. J'ai des Cards qui rebondissent.
Oui, Kyler Murray, 3 interceptions. On verra pas ça souvent. Tu sais, il y en avait de mauvaises dans le système, faut croire, contre Détroit. Donc, il va rebondir assez rapidement. Les Panthers qui sont combatifs, là, mais pas assez pour battre les Cards.
Jacksonville, c'est contre les Bengals en fin de semaine. Oh. Ça aussi, c'est pas un match qui va susciter beaucoup de passion.
Oui, mais quand même deux jeunes carrières qui méritent, je pense quand même qu'on puisse jeter un petit coup d'œil. Puis moi, c'est je crois en Joe Burrow. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il a mangé toute une shot cette semaine face aux Eagles, puis il s'est relevé, puis il a continué à jouer. Ben moi, j'ai énorme respect pour Joe Burrow. J'ai l'impression qu'il va y aller avec sa première victoire avec les Bengals.
Ouais, même si la défensive des Bengals me fait peur, c'est le genre de défensive que Minshew pourrait charcuter là, tranquillement, pas vite, à coup de petites passes. Mais j'y vais aussi avec la première victoire de Burrow. Là, je pense que s'il y a un match qui peut gagner, c'est bien celui-là. Victoire Bengals.
Un match là, qui va être serré, c'est les Colts contre les Bears. Vous y allez pour qui?
Moi, je joue avec les Bears et oui, je suis d'accord avec Stéphane que les Bears, c'est pas une équipe convaincante, mais les Colts, pour moi, ne sont pas convaincants non plus, surtout à l'attaque.
Même en défensive.
En défensive, ils sont très convaincants. Ouais. Ils ont une excellente défensive, mais moi, je m'attends à un match serré. Mais là, l'attaque des Bears est plus potable un peu avec Nick Foles. Je m'attends à ce que les Bears jouent la bonne défensive à la maison. Et je pense qu'ils vont trouver une façon de l'emporter et de être 4-0, messieurs.
Non, je pense que le mirage va commencer à prendre fin en fin de semaine. Écoute, les Bears sont à leur meilleur quand ils peuvent appliquer la pression là, avec Khalil Mack et Robert Quinn de l'autre côté. C'est la force des Colts, justement, de freiner la pression. Écoute, la défensive actuellement qui est une des meilleures de la NFL. Moi, je m'attendais pas à ça du tout. C'est sûr que l'opposition a peut-être pas été au rendez-vous. Tu sais, c'est pas des énormes attaques qu'ils ont affrontées. Mais quand même, l'attaque des Bears est pas si effrayante que ça non plus. J'ai l'impression aussi que Jonathan Taylor, ça va peut-être être son coming out party au sol contre les Bears. C'est pas facile de courir contre les Bears.
Surtout pas à Chicago, Steph.
Ouais, mais là, moi, l'avantage du terrain, j'accorde plus tant d'importance à ça actuellement. Je sais pas, il y a la foule. Bon, il y a des petites foules clairsemées à gauche, à droite, là, mais dans bien des stades, il n'y a pas encore de foule. c'est l'année où j'accorde à peu près le moins d'importance.
Ce serait intéressant de faire le tour de la Ligue, voir si l'avantage du terrain a été un facteur dans les matchs depuis le début de l'année. OK, les Browns contre les Cowboys cette semaine?
Pas évident, ça.
Non?
Non, parce que les Browns courent extrêmement bien avec le ballon. Les Cowboys éprouvent beaucoup d'ennuis en défensive. Tu sais, ça fait deux semaines de suite qu'ils accordent au moins 38 points, je pense, les Cowboys. Ça fait dur, là. Tu sais, c'est vraiment pas la défensive
qu'on attendait. Mais il y a 37.
Tu sais, il y a des blessures, oui. Mais d'un autre côté, il faut que tu fasses mieux que ça. Par contre, l'attaque des Cowboys, surtout au niveau aérien, là, c'est vraiment, ça frappe de partout. Entre Michael Gallup, Amari Cooper, CeeDee Lamb, c'est vraiment une attaque qui est devenue redoutable. Je pense que tranquillement, la ligne à l'attaque des Cowboys va reprendre du mieux aussi. Là, on a vu en fin de semaine passée, il n'y a personne qui jouait à sa position. On avait même l'excellent garde Zach Martin qui était rendu bloqueur à droite à un moment donné parce qu'on cherche des combinaisons, on défait et on refait des combinaisons. Il y a trop de blessures. Mais ce qu'on voit, c'est que tranquillement, là, les joueurs reviennent en santé. Ça devrait les favoriser, je pense, dans ce match-là. Mais on devrait avoir un bon match. Je vais y aller quand même avec une victoire des Cowboys.
Stéphane en a parlé. Moi, j'aime beaucoup l'attaque terrestre des Browns. Je favorise les Browns dans ce match-là parce que je n'ai simplement aucune confiance en la défensive des Cowboys. Oui, ils scorent plein de points, mais ils en donnent tout plein également. Moi, j'ai l'impression que les Browns vont être souvent sur le terrain, vont contrôler l'horloge. Et si Baker Mayfield ne fait pas le fou et ne lance pas d'interception, je pense que les Browns vont l'emporter dans une victoire serrée à Dallas.
Ouh, OK. Les Vikings contre les Texans.
Ça va être la première victoire des Texans, cette affaire-là. Deshaun Watson qui devrait se faire un beau petit festin, il est dû. C'est pas normal qu'une équipe dont le corps arrière est Deshaun Watson soit 0-3. Je pense que ça va changer dimanche.
Oui, même chose, Deshaun Watson va faire la différence face à la piète tertiaire des Mauves.
Les Seahawks contre les Dolphins.
Les Seahawks, Russell Wilson va faire ce qu'il fait depuis le début de la saison, dépecer les défensives.
Oui, il n'est pas arrêtable. C'est vraiment fabuleux de voir cette attaque aérienne-là. La combinaison avec Tyler Lockett est vraiment là redoutable. Il y a DK Metcalf, même malgré des petites crampes, on en reparlera, qui est un receveur très dangereux. Les Seahawks sont méconnaissables parce qu'ils attaquent par les airs à profusion, donc ça va leur profiter encore une fois.
Chargers contre les Bucks.
J'ai les Bucks, mais je dirais que s'il y a une surprise, je serais pas surpris qu'elle vienne de là dans ce match-là. Je peux pas vraiment expliquer pourquoi. Je pense que des fois, il y a juste des surprises dans la NFL. Ça pourrait l'être, mais je vais quand même favoriser Tom Brady.
Ben, Tom Brady a toujours eu de la difficulté. Les fois où il se fait avoir un peu dans sa carrière, c'est quand l'autre équipe est capable d'appliquer la pression à quatre joueurs sans nécessairement blitzer. Puis les Chargers, c'est exactement ça. Là. Avec Bosa et Ingram, sont capables d'aller le déranger. Cela étant dit, t'as un jeune corps arrière du côté des Chargers, puis une défensive vraiment que j'estime beaucoup, qui est en ascension vraiment là, du côté des Buccaneers. Je pense que c'est eux qui vont sauver la mise, les gars de la défensive. Donc, victoire Buccaneers à l'arraché.
Est-ce que ce sera la même chose pour les Steelers contre les Titans en fin de semaine?
Honnêtement, j'ai hâte de voir cette rencontre-là. Des fois, les Titans, c'est pas l'équipe la plus spectaculaire. Mais honnêtement, ce que j'ai hâte de voir, c'est que ça va être un match pour hommes. Ça va jouer physique dans cette rencontre-là. Les deux équipes aiment installer le jeu au sol. Ça va être un bon vieux match là, comme dans le temps, Jean-Nic. Mais je vois les Steelers l'emporter et leur super défensive. Et tranquillement, leur attaque commence à prendre du mieux. Honnêtement, la deuxième demi qu'ils ont joué contre Houston a été franchement impressionnante la semaine dernière. Steelers!
Oui, Derrick Henry du côté des Titans, qui a pas le début de saison escompté, on lui donne beaucoup, beaucoup le ballon. Il va chercher 100 verges ou presque, mais tu sais, c'est laborieux. C'est pas la domination totale là qui était le cas depuis la deuxième moitié de saison l'an passé. Puis c'est très difficile de courir contre les Steelers, donc j'y vais avec une victoire des Steelers. qui sont premiers de division en ce moment. Là, on voyait beaucoup les Ravens dominer là, cette division-là, mais les Steelers ont clairement des choses à dire dans ce débat-là.
Et je le dis et je le redis, je pense encore que les Steelers pourraient être la bête noire des Chiefs.
Est-ce que Baltimore va aller battre Washington sur son terrain pour rebondir suite au Monday Night?
Honnêtement, j'aimerais pas être dans la peau présentement de l'équipe de Washington parce que Baltimore va arriver là. Ils ne seront pas contents. Baltimore par plus de 2 touchés.
Je pense qu'après ce match-là, on va être obligé d'appeler Washington l'ancienne équipe de Washington.
Ouh! Est-ce que les Giants, eux, vont battre les Rams à Los Angeles?
Bonne blague. J'ai les Rams qui vont complètement anéantir les Giants.
Ouais, ça sera pas beau, ça non plus. Regardez autre chose, ça va faire mal.
Les Pats contre les Chiefs? Les Chiefs sont quand même favoris par plus qu'un touché pour ce match-là.
C'est un peu... Honnêtement, je trouve ça beaucoup. Surtout que là, les Chiefs reviennent d'un match émotif. Donc, c'est ce qu'on appelle une fameuse trap game. Là, un match piège parce que là, tu as un autre gros affrontement contre une équipe qui est extrêmement bien coachée. Je pense que ça va être les Chiefs, mais de façon difficile. J'ai hâte de voir. Puis honnêtement, je pense que Cam Newton va en jouer une bonne. Je m'attends à un match très, très serré.
Ouais, moi, la semaine passée, j'ai favorisé les Ravens contre les Chiefs.
Vous avez tous les deux fait ça par ailleurs. Je pense pas
qu'on va être 2 semaines de suite à miser contre les Chiefs. Puis c'est rien contre les Pats. Comme Jean le dit, moi, je seconde une équipe très bien coachée qui est souvent son meilleur dans les gros affrontements comme ça. Là, on l'a vu, ils sont passés à une verge de battre les Seahawks quand même. Ils vont donner une grosse opposition aux Chiefs. Cela dit, on a vu la défensive. On a beaucoup parlé de Mahomes, mais la défensive des Chiefs a très bien fait contre Lamar Jackson, le limiter à 97 verges par les airs. Relativement limiter les dégâts au sol. Tu sais, contre un corps arrière mobile, sont capables. Je parlerai jamais des Chiefs comme d'une défensive terrorisante. Là, ils sont pas dans cette ligue-là. Mais honnêtement, je continue de penser qu'on sous-estime cette défensive-là. Avec Chris Jones, avec Frank Clark, ils peuvent faire bien des dégâts au corps arrière adverse.
Iron Mathieu joue du gros...
Oui, il est partout sur le terrain. C'est impressionnant. Donc, Chiefs dans un match chaudement disputé. C'est le fun d'avoir ça en fin d'après-midi dimanche. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vont en parler après coup.
Est-ce que... Jean, t'as-tu donné ta prédiction pour ce match-là?
Oui, Chiefs.
OK, Chiefs aussi. C'est les gars de la semaine passée. Là, c'est quoi d'ailleurs vos stats depuis le début de l'année pour les prédictions?
Écoute, on est les deux 33 en 40, donc on frappe 83%, ce qui est loin d'être mauvais, Jean-Nic.
Moi, je suis 1-1, parce que la semaine passée, je vous ai dit que les Chiefs allaient gagner.
C'est le temps de prendre, c'est le temps de prendre ta retraite.
C'est ça, exact. Je suis prêt pour le temps de la renommée. Les Raiders contre les Bills à Vegas.
J'ai les Bills dans ce match-là. C'est juste que j'ai pas confiance en la défensive des Raiders qui donne, on l'a vu, beaucoup de verges au sol. Je pense que Buffalo vont dominer les fronts. Vegas va mettre des points, mais ils vont simplement manquer de carburant.
J'ai les Bills aussi. Il y a quelque chose que j'aimerais voir du côté des Bills, par contre. On avait beaucoup parlé de cette équipe-là, comme quoi la fondation, c'était la défensive. Puis jusqu'ici, on le voit pas. Tu sais, ils ont donné quand même des points aux Jets. Ils ont failli laisser remonter les Dolphins. Même chose face aux Rams. Une défensive jusqu'à maintenant qui donne trop de points à mon goût. J'aimerais ça voir quelque chose qui se resserre un peu de ce niveau-là. Parce que c'est pas vrai que Josh Allen va pouvoir faire 4-5 passes de toucher à toutes les semaines puis être un sauveur comme ça. Oui, c'est un bon corps arrière puis il est en train de s'implanter solidement, mais faudrait que les Bills montrent un effort plus constant là, des deux côtés du ballon. J'ai l'impression là, contre les Raiders, c'est une bonne attaque les Raiders, c'est pas une mission facile ce que je dis là, mais faut voir un peu de flamèche du côté défensif.
Les Eagles qui vont nulle part contre les 49ers qui ont leur club B.
Ouais, un club B qui est quand même très physique, puis honnêtement je prends les Niners dans ce match-là. J'ai juste aucune confiance présentement aux Eagles. C'est un club qui est quand même bien coaché, les Niners. Je pense qu'ils vont avoir un bon plan de match. Ils vont simplement être beaucoup, beaucoup plus physiques que les Eagles.
Ouais, j'ai adoré ce que j'ai vu des Niners contre les Giants. Puis là, vous allez dire, ouais, mais c'est plus les Giants, les Eagles, c'est quand même une équipe supérieure. Je le sais plus à ce stade-ci. Les Eagles sont tellement décevants. Carson Wentz qui régresse à vue d'œil. Les Niners, franchement, beaucoup, beaucoup de mérite là, pour avoir joué de cette façon-là, avoir gagné aussi facilement. On va dire un club B, moi, je suis pas sûr que c'est pas rendu un club C. Là. C'est, écoute, t'avais trois demi de coin qui jouaient pas là, à un moment donné dans le match face aux Giants. Ils continuent de dominer, c'est tout à leur honneur. Donc, victoire moi, Niners dans ce match-là aussi.
Je vais y aller pour un 2-2, c'est un prime time. Je suis sûr que Carson Wentz va rebondir. Victoire des Eagles pour moi. OK.
Wow.
Falcons-Packers pour le Monday Night.
J'ai une question, Jean-Nic. Est-ce que le match est prévu pour juste être 45 minutes? Parce que si c'est le cas, je prendrais les Falcons, mais comme les règles de la NFL, c'est 60 minutes, je vais prendre les Packers.
C'est bon.
Ouais, je vais y aller avec les Packers aussi. Aaron Rodgers qui est tout simplement dominant. Puis ce que j'aime en ce moment, c'est qu'ils sont plus obligés de se fier sur Davante Adams. T'sais, on l'a vu, ils jouaient pas face aux Saints. Alan Lazard qui a pris la tertiaire d'assaut. Ensuite, les deux ailiers rapprochés là, qui ont commencé à sortir de leur mutisme. J'aime voir que cette attaque-là peut se diversifier un peu. C'est ce que j'aimais pas des Packers par le passé. C'était Rodgers, Adams, tu vivais ou tu mourais par eux. Là, il y a un peu plus de force de frappe qui est répartie. Ça va être une victoire des Packers pour tomber à 4-0.
Merci les gars pour vos prédictions. On va regarder ça en fin de semaine. On fait une pause et puis ensuite, c'est la chronique au bar. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. On est de retour à la zone payante. Les gars, c'est le temps de la chronique au bar. Qui vous punissez cette semaine? Qui vous envoyez au bar? Stéphane? Vas-y, Jean.
OK, mais écoute, je suis prêt. Moi,
les deux, de toute façon, avec les bars.
Je suis prêt. Moi, j'envoie Tristan Hill au bar. C'est le plaqueur défensif des Cowboys.
Ah, c'était pas beau, ça.
Non, c'était pas beau. Qui a décidé de plaquer Chris Carson puis faire le traitement de l'alligator. Donc, de tourner, tourner et tourner, de continuer le plaqué, même si le plaqué était terminé depuis au moins 3 secondes. Et ce qui devait arriver arriva, que le genou de Chris Carson a cédé. Ça m'apparaît quand même une blessure, fort heureusement, qui ne coûtera pas la saison à Chris Carson. C'est le genre de jeu qu'on voyait, genre des années 70, qui n'a absolument plus sa place dans le football d'aujourd'hui. Puis honnêtement, je suis déçu de la NFL, puis j'envoie les décideurs un peu aussi de la NFL, parce qu'il aurait dû être suspendu au moins un match, Tristan Hill, pour se plaquer là. Il n'y a eu absolument aucune décision qui a été prise dans le dossier. Donc, Tristan Hill au bar est condamné, honnêtement, messieurs, à boire du Goldschlager jusqu'à temps qu'il visite les WC.
Ça, c'est chiant.
C'est pas un beau plan de match pour lui, ça. Mais moi, j'y vais pour l'accompagner dans les WC. J'ai envoyé DK Metcalf. Je sais qu'il s'est bien repris en fin de match face aux Seahawks, là, avec un toucher clé. Puis que c'est un bon receveur, qui a beaucoup de talent. Mais justement, une bonne leçon d'humilité qu'a vécu DK Metcalf. Vous avez vu son presque toucher, j'imagine, les gars. Hein? Il se ramasse, pogne une bombe de Russell Wilson, tout près de la zone début. Il sort les bras en guise de victoire. Puis Trevon Diggs, le demi de coin recru des Cowboys, qui a la présence d'esprit d'aller taper sa balle puis d'y enlever juste avant qu'il rentre dans zone début. Résultat, touché de sûreté. On recommence de l'autre côté.
Mais quelle leçon quand même pour les jeunes de jamais abandonner. C'est fou. On se le dit à chaque fois qu'il y a un jeu comme ça, là, mais c'est tellement beau le football pour ça. Là.
Non seulement de jamais abandonner, mais là, DK Metcalf, peut-être qu'il commençait à être un peu au-dessus de sa tête puis de se penser parvenu un petit peu. C'est merveilleux, ça va le ramener sur terre. Je pense qu'il avait besoin d'un petit rappel amical comme ça. Au final, ça n'a pas coûté à son équipe, mais imaginez que les Cowboys gagnent ce match-là. Imaginez la bourde monumentale et à quel point ce gars-là se ferait ramasser. Ce serait pas chic. Donc, moi, je le condamne, DK Metcalf, à aller au bar, à payer une tournée à son équipe. Ça va coûter cher, c'est pas grave. Il y aura un contrat dans quelques années qui va lui permettre de rembourser ses dettes. Et lui, pour l'instant, il va être à l'eau. Tu sais, c'est pas super le fun, l'eau, mais ça te permet des fois de réfléchir et de te remettre les idées droites un peu plus claires. DK Metcalf, un bon verre d'eau, peut-être avec une lime dedans, vu qu'il a quand même marqué un toucher à la fin, là, mais c'est tout. Puis une grosse tournée là, très chère aux Seahawks, là, qui ont un peu racheté.
Ouais. Puis Russell Wilson qui est allé voir Metcalf, on a vu la scène en lui disant « Hey, quitte-toi pas, là, regarde vers l'avant, il y en a d'autres qui s'en viennent. »
Oh oui, puis il va avoir une carrière phénoménale, mais c'est une bonne leçon d'humilité à un moment opportun, je pense.
Je tiens simplement à dire que pour ramasser DK Metcalf, t'as besoin des joueurs de ligne à l'attaque, parce que c'est pas les autres receveurs de l'équipe qui vont le faire. Il est simplement gigantesque.
Merci les gars, bonne semaine de football, et merci à vous les auditeurs d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. Bye tout le monde!